moment-là, ils doivent aller consulter un médecin, un psychologue ou un psychiatre. Donc, quand l'enfant ne perçoit pas les signaux, il va avoir un comportement qui ne correspond pas à l'environnement dans lequel il est. Donc, les parents vont dire l'enfant est distrait. Les parents d'un enfant sourd vont dire l'enfant n'écoute pas. On lui parle, mais c'est comme s'il ne s'intéresse pas à nous. Eh bien, l'enfant autiste, c'est la même chose. Donc, les parents doivent aller maintenant consulter quelqu'un qui est spécialisé dans ce domaine là-bas, qui peuvent confirmer. Lorsque l'enfant ne perçoit pas les signaux, il va présenter d'autres signes, souvent des signes de détresse, parce que l'enfant sourd, qui n'entend pas, il est énervé parce qu'il n'arrive pas à communiquer, lui non plus n'arrive pas à communiquer ses sentiments à son environnement. Alors il devient nerveux. L'autiste devient aussi nerveux et sa nervosité se voit comment il a ce qu'on appelle les tics. C'est-à-dire qu'il va faire des mouvements bizarres à répétition. C'est pour montrer qu'il est énervé. Ou bien, il va commencer à s'intéresser à des choses à lui. Souvent, quand l'autisme n'est pas très très profond, il va devenir un artiste. Il va faire ses jeux à lui, séparés de son environnement. Voilà comment on peut arriver au diagnostic de l'autisme et on peut aussi préciser la sévérité de la maladie. Parce que je dis, c'est une incapacité totale ou partielle de percevoir les signaux du corps.
Docteur, cette incapacité-là se développe ou se manifeste à bas âge?
Un bébé normal, il réagit quand il voit ses parents, il réagit quand ses parents sont contents. C'est le tout petit bébé, il sourit avec ses parents. Mais l'autiste, il ne comprend pas, il ne perçoit pas le message. Donc, dès le bas âge, on peut déjà voir ça. Les bons parents, ils peuvent observer leur enfant. Ils peuvent voir ça très, très, très tôt. Et évidemment, au fur et à mesure que l'enfant grandit, les signaux se confirment.
L'enfant entend bien, l'enfant il voit bien, mais c'est juste qu'il ne sait pas interpréter les signes du corps.
Voilà. Il voit bien, il voit tout. Il voit s'il y a une mouche qui passe, il va voir la mouche. Il voit ses parents. Mais il ne comprend pas ce que les parents sont en train de lui dire. Les gestes des parents.
Il ne sait pas les interpréter.
Il ne sait pas les interpréter.
Est-ce que l'autisme est héréditaire?
Alors maintenant là, vous m'amenez dans les causes. Je dois être franc avec vous. La médecine ne connaît pas encore les causes de l'autisme. Alors il y a beaucoup d'hypothèses. Il y a des gens qui pensent que c'est héréditaire. Mais il n'y a pas d'études concluantes pour montrer qu'il y a tel parent qui a transmis l'autisme à son enfant. Il y a beaucoup d'hypothèses. Il n'y a aucune hypothèse qui a été confirmée jusqu'à présent. On ne connaît pas la cause de l'autisme ou des différentes manifestations de l'autisme. On est encore dans le noir, malheureusement.
Est-ce qu'on peut guérir de l'autisme?
Pour parler de guérison, il faut d'abord connaître la cause. Comme on ne connaît pas la cause, c'est comme avec la folie. Jusqu'il y a quelques années, on ne connaissait pas la cause de la folie. La cause matérielle, physique de la folie, on bricolait. Et vraiment, nous espérons qu'avec le passage des années, on va améliorer la connaissance de la maladie, donc les causes. Et une fois qu'on aura compris les causes, on pourra avancer vers le traitement et la guérison.
Mais y a-t-il quand même une prise en charge?
La prise en charge se fait vraiment de façon symptomatique. Il y a des centres qui voient beaucoup de ces malades et qui apprennent en faisant. Ce sont ces centres-là qu'il faudrait consulter pour aider l'enfant ou la personne qui est atteinte d'autisme.
Vous suivez votre santé, votre avenir sur VOA Afrique.
L'autisme est une maladie assez connue en Afrique?
Encore une fois, j'ai refusé le mot maladie. J'ai dit, est-ce que c'est un handicap qui est assez bien connu en Afrique? Non, pas très bien. Pas très bien.
Pourquoi l'autisme ne fait pas encore partie des urgences de santé publique sur le continent africain?
À cause de la méconnaissance. La connaissance faible que nous les Africains nous avons de cette maladie là-bas. Mais la médecine officielle n'a pas encore inscrit l'autisme dans ses priorités. Alors on peut le comprendre, les services africains de santé publique sont confrontés à une longue série de maladies de santé publique que même si on essaie d'intéresser les autorités sanitaires à cette maladie, ils vont vous dire que oui, c'est peut-être un problème, mais comparé aux autres priorités que nous n'avons pas le temps de nous occuper de ça. C'est pourquoi, moi je pense qu'en Afrique, il faut suivre la voie qu'ont suivi les autres pays développés. Ça veut dire les parents des malades autistiques et les médecins, les psychologues qui sont confrontés à ces problèmes-là, ce sont ces gens-là qu'il faut aider, ce sont ces gens-là qu'il faut aider pour attaquer ce problème d'autisme. Mais il ne faut pas rêver, ça ne viendra pas des autorités officielles de santé publique. Ça viendra des groupes de personnes intéressées, ça veut dire les parents, les psychologues et les psychiatres. Ça viendra de là. La lutte doit commencer par intéresser, organiser les parents dont les enfants souffrent, les médecins, certains médecins, des psychiatres, des psychologues et des gens de bonne volonté.
Donc ça veut dire que les autistes et leurs familles sont confrontés à plusieurs difficultés.
Pas seulement en Afrique, c'est beaucoup de difficultés parce que malheureusement, comme je disais, la maladie n'est pas encore bien connue. Tout ce qu'on peut faire, c'est aider avec les petites connaissances que nous avons maintenant, avec le plus de bonne volonté possible, mais la science n'est pas encore là vraiment pour apporter le soutien à ce problème-là. Donc c'est la recherche qu'il faut renforcer.
Est-ce qu'un autiste peut avoir une vie assez normale dans la société ou avoir un travail aussi?
Si je vous ramène à ma comparaison de la surdité et de la cécité, je vous dis la même chose. C'est la même réponse. Ça veut dire qu'un sourd peut avoir une vie normale, un aveugle peut avoir une vie normale, si on lui apporte l'appui nécessaire. Vous voyez par exemple que les aveugles, c'est un monsieur qui les a aidés à lire. C'est pas un gouvernement, c'est un monsieur qui s'appelait Braille. Les sourds, ce sont des organisations caritatives souvent, de bienfaisance qui les aident. Et c'est après seulement que les gouvernements arrivent à aider ces personnes.
Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, à nous faire vos réponses.
Quel conseil pouvez-vous donner aux personnes autistes ou à leurs familles?
À part le fait qu'il faut qu'ils cherchent le soutien là où ça existe, maintenant, grâce à l'Internet, un autiste africain peut aussi être en contact, peut se mettre en contact avec les autistes des pays développés. Donc il y a moyen de développer ce genre de contact. Ce qu'on a dit dans le passé pour les malades qui souffrent de l'épilepsie ou de certaines formes de maladies psychiatriques, c'est de continuer à espérer que demain sera meilleur.
Et aussi à l'endroit des personnes qui fréquentent les autistes, les voisins, les collègues de travail et tout, qu'est-ce que vous pouvez leur dire?
Je leur dirai la même chose que ce qu'on dit aux gens qui fréquentent, qui sont à côté des sourds, qui sont à côté des aveugles, c'est beaucoup d'amour vis-à-vis de ces gens-là. Et tout à l'heure, là, je n'ai pas bien répondu à la question, est-ce qu'un autiste peut mener une vie tout à fait normale? Oui, un autiste peut mener une vie tout à fait normale. Et parmi ces gens, il y a des gens parfois très, très intelligents. Alors, il vaut mieux soutenir, renforcer les talents qu'ils ont. Parce que c'est un handicap, ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde. Donc, identifier les talents que l'autiste a et essayer de travailler positivement sur ses talents. Et ne pas voir l'autiste comme une personne qui n'a que cet handicap-là. Parce qu'il peut avoir d'autres talents qui demandent à être renforcés. Et des autistes, grâce au soutien de leur entourage, de leurs parents, de leurs amis, de leur famille, ont pu terminer avec brio des études jusqu'au niveau universitaire et même post-universitaire.
Merci beaucoup, docteur, d'avoir répondu à nos questions.
C'était mon plaisir.
Vous venez d'écouter notre entretien avec le docteur Malunga Mietudila, spécialiste en santé publique. Il est aussi le président du conseil d'administration de Sanro Asbel en République démocratique du Congo. Sanro Asbel est une ONG dont la santé publique est l'un des domaines d'intervention. À présent, nous vous invitons à écouter Carnet de santé.
Cette semaine, dans Carnet de santé, focus sur la santé des jeunes. Nous irons en Sierra Leone où une drogue est de plus en plus prisée par certains jeunes, le couche, un mélange de produits chimiques similaires au cannabis. Un spécialiste nous expliquera les conséquences de la consommation des drogues pour les jeunes. Nous écouterons les avis de quelques personnes recueillies dans les rues de Nairobi sur la question. Nous vous amènerons aussi au Cameroun à la découverte d'un centre de traitement des traumatismes qui vient en aide aux survivants du conflit séparatiste qui sévit dans les régions anglophones. Nous parlerons enfin de l'autisme pour évoquer la situation de certains parents d'enfants autistes au Nigeria qui recherchent soutien et compréhension. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Salut à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Carnet de santé. Selon un rapport de l'ONUDC, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, plus de 296 millions de personnes ont consommé des drogues en 2021, soit une augmentation de 23% en 10 ans, le cannabis restant de loin la drogue la plus largement utilisée. La production peu coûteuse, rapide et facile des drogues de synthèse a profondément transformé de nombreux marchés dans le monde, avertit l'ONU. L'Afrique n'est pas épargnée par cette situation. Au Sahel, par exemple, selon l'ONUDC, le trafic de drogue continue de prospérer grâce aux groupes armés non étatiques qui y sont très actifs. En Sierra Leone, une nouvelle drogue fait des ravages parmi les jeunes, le couche, un mélange de produits chimiques similaires au cannabis. Dans ce pays, il suffit de 23 centimes d'euros pour s'offrir une petite heure de transe. Face à l'ampleur du phénomène et au manque de structures pour répondre à la crise, les professionnels de la santé s'alarment. Yacouba Ouedraogo nous en dit plus.
Il suffit de quelques bouchées sur un joint pour s'offrir une transe de moins d'une heure. Cette drogue, c'est le couche. Apparu il y a environ 5 ans, c'est un mélange de substances chimiques toxiques imitant le cannabis. Dans ce fumoir d'un bidonville de Freetown, on croise de jeunes gens à peine adolescents. À 23 centimes d'euros la dose, ils trouvent une échappatoire dans cette nouvelle drogue. Titubant, on reconnaît les addicts à leur somnolence.
Ils disent que je dois purger mon corps de cette substance. Depuis que j'ai commencé à fumer il y a 5 ans, mon corps est désormais accro aux couches.
Kadiatou, ce n'est pas son vrai nom, a sombré dans le couche il y a 5 ans. La jeune femme de 22 ans qui aimait faire la fête est aujourd'hui réduite à la prostitution pour payer ses doses. Son corps porte les stigmates des violences qu'elle a subies dans la rue.
Man follow me for money.
Je laisse des hommes me suivre pour avoir de l'argent, pour m'acheter du couche. Et je tresse des cheveux aussi. Mais je fais peu de tressage de cheveux. Parfois, je vais dans la rue pour me prostituer, pour de l'argent et pour pouvoir obtenir ce que je veux.
Depuis 5 ans, Ibrahim Koroma, un travailleur social, a fait du couche sa priorité.
Young people are dying.
Les jeunes meurent. Il nous faut rapidement une stratégie repensée pour contrer la façon dont les jeunes consomment cette drogue. À l'heure actuelle, c'est vraiment alarmant.
Pour répondre à la crise, l'unique hôpital psychiatrique du pays reste la seule structure d'accueil pour tenter de sevrer les toxicomanes que les familles amènent.
What we see in the hospital is...
Ce que nous voyons à l'hôpital peut être considéré comme la partie visible de l'iceberg où seuls les cas les plus graves sont amenés. Mais si on se rend dans les communautés, les parcs, les rues, les bidonvilles, on trouve beaucoup plus de gens qui consomment ces substances et qui en subissent les effets que l'on voit ici.
Ce bâtiment de l'hôpital est exclusivement destiné aux patients nécessitant un sevrage. Dans ces dortoirs fermés à clé, ces jeunes hommes passent 3 à 6 semaines, certains sous traitement antipsychotique, grâce à l'aide d'une ONG qui offre un soutien financier et des formations au personnel. Faute de moyens humains et financiers pour assurer le suivi, de nombreux patients rechutent à la sortie.
On on vient de le voir, la consommation des drogues prend des proportions considérables chez les jeunes. Notre reporter a demandé à quelques habitants de Nairobi, la capitale du Kenya, leur avis sur la consommation des drogues par les jeunes. Suivez.
Certaines personnes sont tellement déprimées, elles n'ont pas de solution. Alors, elles se tournent vers la drogue. Oui, je pense que c'est la meilleure solution pour elles.
Parfois, les gens pensent que lorsqu'ils consomment de la drogue, cela les aidera à probablement oublier leurs soucis, le stress qu'ils ressentent. Je pense que c'est la raison principale.
Je pense que c'est un très gros problème, surtout dans mon pays et à Nairobi. Je pense que c'est une forme d'évasion, surtout pour la plupart d'entre nous.
Les drogues ne résoudront jamais les problèmes. On peut consommer des drogues de choix et des drogues à usage thérapeutique, mais il ne faut pas en abuser. L'abus peut entraîner des maladies et ces maladies peuvent conduire à la mort.
Nous devons mieux sensibiliser les gens aux effets de la drogue, aux conséquences sur leur vie, sur leur avenir. Vous voyez ce qui se passe dans votre vie après avoir consommé ces drogues. Vous pensez peut-être que vous allez bien, mais à l'avenir, cela va se répercuter sur votre vie et votre avenir.
La drogue ne sera jamais une solution.
Never.
Écoutons maintenant l'avis d'un spécialiste, le docteur Frank Njenga, et un psychiatre kényan, médecin en service au groupe hospitalier Shiromo. Il explique les effets de la consommation des drogues pour les jeunes.
Nous sommes dans une situation qui va dans les deux sens. Les personnes souffrant de santé mentale consomment des drogues et celles qui consomment des drogues développent un problème de santé mentale. Je veux dire par là que si, par exemple, vous avez un problème de santé psychologique courant, comme l'anxiété, la dépression, ou même un problème plus grave comme la schizophrénie ou les troubles bipolaires, vous êtes plus susceptible de consommer des drogues qu'une personne qui n'a pas de problème de santé mentale. D'autre part, si, par exemple, vous avez connu un abus d'alcool, ou si vous consommez du cannabis en grande quantité, la probabilité que vous développiez un trouble de l'humeur ou une psychose est très élevée. Quelle que soit la façon dont on envisage les choses, il existe des liens très étroits entre les problèmes de santé mentale et la consommation de drogue. Il ne fait aucun doute que la consommation à long terme de grandes quantités de cannabis, par exemple, non seulement entraîne différents types de psychose, mais est également liée à l'apparition précoce de la schizophrénie. Et il est certain que la schizophrénie est l'un des troubles mentaux les plus graves que nous rencontrons avec la consommation de certaines substances. Il existe d'autres problèmes de santé mentale comme les dépressions graves. Nous voyons des personnes qui consomment de la cocaïne, par exemple, tomber dans des dépressions graves. Des personnes qui consomment de l'héroïne peuvent tomber dans des états dépressifs graves, bien que dans certains cas, comme nous l'avons déjà dit, il s'agit d'une activité bidirectionnelle. Les personnes déprimées consomment de la cocaïne. Les consommateurs de cocaïne deviennent dépressifs. Ainsi, sans entrer dans les détails, il existe un lien net entre la consommation de drogue et les troubles mentaux graves. L'activité la plus importante de tout gouvernement est de mettre en place des systèmes d'éducation, car il est évident qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Des systèmes de détection précoce. Et quand je parle de détection précoce, je parle des systèmes qui identifient ces conditions dans les écoles secondaires, dans les universités. Le gouvernement kényan a réalisé ce qu'on appelle un programme d'investissement dans la santé mentale. Nous avons découvert, presque à notre surprise, que ce n'est pas auprès des adultes qu'il faut investir dans la santé mentale, mais auprès des jeunes. Les bénéfices d'un investissement dans la santé mentale des mineurs sont incroyables. Nous recommandons donc d'investir très tôt dans la santé mentale des jeunes.
Au Cameroun, le conflit séparatiste qui en est à sa sixième année a fait des milliers de morts, tandis que les survivants, estimés à 2 millions, luttent contre leur blessure morale. À Bafoussam, capitale de la région de l'Ouest, un centre de traitement des traumatismes est submergé des demandes d'aide. Suivons cela dans ce reportage d'Anne Zouanke, relaté par John Lyndon.
Toutes les deux semaines, Aminatou Moussa se rend à une séance d'orthophonie organisée par le Centre de guérison des traumatismes et des résiliences de Mission 21. Elle en est à sa troisième séance et ne peut toujours pas parler sans pleurer. En 2018, Madame Moussa et son mari ont fui le conflit entre les forces gouvernementales et les groupes militaires séparatistes dans l'ouest du Cameroun en direction du Nigeria. Mais en chemin, dit-elle, son mari est tombé malade et est décédé.
La plupart du temps, quand je viens au centre, je me sens mieux. Quand je viens à une réunion comme celle-ci et que je rentre, je dors un peu. Au bout d'un moment, le sommeil disparaît à nouveau.
Le processus de guérison commence par une thérapie à un groupe de 20 personnes maximum. Ensuite, les thérapeutes organisent des séances individuelles avec les patients. Mission 21, une organisation non gouvernementale suisse, organise également des visites à domicile. Lorsque Vanessa Ngan avait 20 ans, la crise a commencé et son mari a été tué par les séparatistes. Elle a passé 5 ans à lutter contre la maladie et le chômage. Après 3 mois de traitement, elle a pu commencer une nouvelle vie dans son atelier de couture.
Je me sens bien. J'ai acquis de nouvelles compétences et j'ai obtenu mon diplôme. Ils ont ouvert mon atelier de couture.
Togo Lumumba Mukong, coordinateur national, explique que Mission 21 organise environ 120 séances de conseils par mois, mais que la demande est 3 fois plus importante.
Nous pensons qu'en tant que Mission 21, nous ne pouvons rien faire sans les autres. Nous avons donc besoin des ONG locales, nous avons besoin de la volonté des personnes déplacées de travailler avec nous, et alors nous mettons la main à la pâte et nous pourrons tous sortir de ce traumatisme qui perdure.
Selon les Nations Unies, le conflit séparatiste au Cameroun, qui est né à sa 6e année, a fait des milliers de morts, tandis qu'environ 2 millions de survivants du conflit cherchent de l'aide pour poursuivre leurs études ou trouver du travail.
L'autisme reste un handicap mal connu ou même parfois méconnu. Gnoki Mike Nandi, une femme nigériane, a eu du mal à accepter la maladie de sa fille. Mais aujourd'hui, grâce à un programme artistique, la jeune fille de 17 ans se porte mieux. Christine et sa mère ont décidé d'aider les autres à mieux comprendre et accepter les personnes autistes. Plus de détails avec Blanche Tan.
Lorsque Nadi a eu 3 ans, ses parents ont remarqué qu'elle regardait continuellement dans le vide et ne répondait pas à son propre nom. Ils ont supposé qu'elle était malentendante malgré les tests médicaux négatifs. 2 ans plus tard, Nadi a reçu un diagnostic du trouble du spectre autistique. Sa mère, Noni Mike Nadi, a sombré dans la dépression.
Dans mon esprit, je pensais toujours qu'il se passerait peut-être quelque chose. Peut-être que si nous faisions une chose en particulier, essayer une thérapie, même des médicaments, parce que je n'avais jamais entendu parler de l'autisme auparavant.
La pandémie de COVID-19 a changé la donne pour la famille. Malgré les restrictions du rassemblement public, sa mère a embauché un enseignant d'art pour dispenser des cours à la maison. Les effets ont été immédiats.
En 3 semaines de cours de peinture, Christine a commencé à parler, à retrouver la parole, à retrouver son sang-froid, des changements de comportement, la confiance, la conscience de soi. Elle a acquis de l'assurance. Et j'ai commencé à me dire, oh mon Dieu, enfin nous pouvions apercevoir une lumière au bout d'un tunnel.
Avec l'aide de sa mère, la jeune fille de 17 ans mélange la peinture dans le salon familial transformé en atelier. Selon une étude publiée dans la National Library of Medicine, l'un des principaux obstacles à la recherche et à la gestion de l'autisme en Afrique subsaharienne a été la rareté des outils validés.
Beaucoup de nos parents se plaignent en disant que trouver un enseignant spécialisé coûte cher. C'est aussi cher parce que le matériel que nous utilisons coûte cher. Ce ne sont pas des choses bon marché. Beaucoup d'entre nous improvisent même.
Ces 2 dernières années, Christine Nagy et sa mère ont organisé des événements pour les enfants des bidonvilles afin d'aider à mieux comprendre et accepter les personnes autistes.
C'est ici que s'achève votre santé, votre avenir de ce jour. Notre invité était le docteur Malunga Nyatudila, spécialiste en santé publique et président du conseil d'administration de Sanro Asbel en République démocratique du Congo. Sanro Asbel est une ONG qui intervient aussi en matière de santé publique. Ensuite, vous aviez suivi Carnet de santé dans la seconde partie de notre programme. Ce programme santé a été présenté par Nanis Talani grâce à la réalisation de Michel Joseph. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé